Chapitre 139 Initiation. Les deux jeunes gens descendirent dans la chambre à coucher de Justin, c'est-à-dire dans la salle où se faisait la classe. Or, la classe était vide, les enfants ayant congé, vu la solennité du jour qui était un dimanche. Ce fut Salvatore qui fit signe à Justin de s'asseoir. Justin prit une chaise, Salvatore s'assit sur la table. « Maintenant, dit Salvatore en posant la main sur l'épaule de Justin, maintenant, mon cher ami, prêtez-moi toute votre attention et ne perdez pas un mot de ce que je vais vous dire. J'écoute, car je me suis bien douté que vous n'aviez pas tout dit devant ma mère et ma sœur. Et vous aviez raison, il y a de ces choses qu'on ne dit pas devant une mère et devant une sœur. Parlez, j'écoute. Justin, vous ne retrouverez pas Mina par les moyens ordinaires. « Oui, mais par votre intermédiaire, je la reverrai, n'est-ce pas ?»« Soit, seulement tout doit d'abord être bien arrêté entre nous. Que je la revoie, que je sache où elle est, et le reste me regarde. »« Vous vous trompez, Justin. À partir de ce moment, c'est moi que tout regarde. »« Oui, vous la reverrez, puisque je vous le promets. Oui, vous l'enlèverez, c'est possible, facile même. Oui, vous la cacherez, de manière à ce qu'on ne la retrouve pas. » Mais on vous retrouvera, vous. Eh bien, après, vous retrouvez, vous êtes arrêté, emprisonné. Que m'importe, il y a une justice en France. On reconnaîtra tôt ou tard mon innocence et Mina sera sauvée. Tôt ou tard, avez-vous dit, j'admets le tôt ou tard, quoique sur ce point, je ne sois pas de votre avis. Seulement, je suis obligé de caver au pis. « Mettons que votre innocence sera reconnue, mais tard. Croyez que je vous fais une grande concession, au bout d'un an, par exemple. Eh bien, pendant cette année, qu'arrivera-t-il de votre famille? La misère entrera par la porte que votre sortie aura laissée ouverte. Votre mère et votre sœur mourront de faim. Non, car les bons cœurs leur viendront en aide. Ah, comme vous vous trompez, mon pauvre Justin. Les Valgeneuses ont les 100 bras de Briaret. » De même qu'il leur a suffi d'étendre un de ses bras pour vous ouvrir la porte d'un cachot, de même, des 99 autres qui leur resteront, ils traceront autour de votre famille un cercle que la pitié n'osera franchir. Les bons cœurs viendront en aide à votre mère et à votre sœur. Qu'entendez-vous, les bons cœurs? Jean Robert, un poète, qui est riche aujourd'hui comme M. Laffitte, qui demain est plus pauvre que vous. Pétrus, un peintre, homme de fantaisie, qui fait des tableaux pour lui et non pour le public, qui vit non pas de son pinceau, mais en mangeant son pauvre petit patrimoine. Ludovic, un médecin de talent, de mérite, de génie même, si vous voulez, mais un médecin sans clientèle. Moi, un pauvre commissionnaire qui vit au jour le jour et qui ne puis jamais répondre du lendemain. Votre mère et votre sœur sont bonnes chrétiennes, et il leur restera l'Église? Un des cardinaux les plus influents de l'époque est parent des Valgeneuses. Le bureau de bienfaisance, le président du bureau, est lui-même un Valgeneuse. Elles auront recours au préfet de la Seine, au ministre de l'Intérieur. Elles recevront 20 francs une fois donnés, et encore les recevront-elles quand on saura qu'elles sont la mère et la sœur d'un homme arrêté sous la prévention d'un crime entraînant peine de galère. « Mais que reste-t-il donc à faire ?» s'écria Justin, tout frémissant de rage. Salvatore appuya plus fortement sa main sur l'épaule de Justin et fixant son regard sur le sien. « Que feriez-vous, Justin » demanda-t-il, « si un arbre menaçait de tomber sur votre tête ?»« J'abattrai l'arbre, » répondit Justin, qui commençait à comprendre la métaphore de son ami. « Que feriez-vous si quelque bête féroce échappée d'une ménagerie parcourait la ville ?» Je prendrai un fusil et je tuerai la bête féroce. Alors, dit gravement Salvatore, vous êtes celui que j'espérais. Écoutez-moi donc. Je crois vous comprendre, Salvatore, dit Justin, appuyant à son tour la main sur la cuisse de son ami. Certes, reprit Salvatore, celui-là qui, pour venger une injure personnelle, apporterait le désordre dans la cité, celui-là qui, parce que sa maison brûle, tenterait d'incendier la ville, celui-là serait un sot, un méchant ou un fou. Mais celui-là, Justin, qui aurait sondé les plaies de la société et qui se serait dit « Je connais à fond le mal, cherchons le remède », celui-là ferait œuvre de bon citoyen, celui-là serait un honnête homme. Justin, je suis un des membres désolés de cette grande famille humaine opprimée par quelques intrigants. Jeune, j'ai plongé à fond dans cet océan que l'on nomme le monde, et comme le pêcheur de Schiller, j'en suis revenu plein d'épouvante. Alors je suis rentré en moi-même et j'ai médité sur les misères de mes semblables. Je les ai tous vus défiler devant moi, les uns comme des bêtes de somme pliant sous un fardeau qui dépasse leurs forces, les autres comme des moutons que le boucher conduit à l'abattoir. À cet aspect, j'ai eu honte de mes semblables, j'ai eu honte de moi-même, je me suis fait l'effet d'un homme qui verrait dans un bois un autre homme attaqué par des voleurs et qui, caché derrière un arbre, le laisserait dévaliser, meurtrir, poignarder, sans lui porter secours. Tout en gémissant sourdement, je me suis dit qu'à tout, excepté à la mort, il y avait un remède, et encore que la mort n'était qu'un mal individuel, sans même être un accident pour l'espèce. Un jour qu'un mourant me montrait ses blessures, je lui ai demandé « Qui te les a faites? » Il m'a répondu « C'est la société, ce sont tes semblables. » Alors j'ai arrêté la parole sur ses lèvres et je lui ai dit « Non, ce n'est point la société, non, ce ne sont point mes semblables qui t'ont frappé. Ils ne sont pas mes semblables ceux qui t'attendent au fond d'un bois et te dérobent ta bourse. Ils ne sont pas mes semblables ceux qui te lient les mains et qui t'égorgent. Ceux-là, ce sont les méchants qu'il faut combattre. Les herbes empoisonnées de la plaine qu'il faut arracher. Le puis-je? Me demanda le blessé, je suis seul. Non, répondis-je en lui tendant la main, nous sommes deux. Nous sommes trois, dit Justin en saisissant la main de Salvator. Tu te trompes, Justin, nous sommes 500 000. Ah bien, dit Justin, dont les yeux rayonnèrent de joie, et que Dieu qui m'a entendu me renonce pour un des siens le jour où j'oublierai ou renierai les paroles que je dis. Bravo, Justin. Ah bah, ce misérable gouvernement d'idiots, d'intrigants et de jésuites qu'on a impudemment nommé la Restauration et qui n'est que le souffle de l'étranger répandu sur la France. Assez, dit Salvator, soyez à 5 heures chez moi et prévenez que vous ne rentrerez point chez vous de la nuit. Où allons-nous? Je vous le dirai à 5 heures. Faut-il prendre des armes? C'est inutile. À 5 heures? À 5 heures. Les deux jeunes gens se quittèrent. Il ne leur avait fallu qu'un instant, comme on voit, à l'un pour faire, à l'autre pour accepter une proposition dans laquelle tous deux risquaient leur tête. Mais il en était ainsi de l'état des esprits à cette époque. Il y avait un souvenir qui rendait braves les plus timides, féroces les plus doux. Ce souvenir, c'était celui de l'ennemi envahissant deux fois la France. Cette odieuse et terrible invasion, qui n'est qu'un fait historique pour la génération de 1860, était une apparition enflammée et sanglante pour celle de 1827. Chacun de nous se rappelait en province les blessés de Montmirail, de Champaubert et de Waterloo, à Paris ceux de la butte Saint-Chaumont et de la barrière de Clichy. La haine était une œuvre nationale, et le mot de Lafayette, l'insurrection est le plus saint des devoirs, était devenu la devise de la France. Le jour où nous raconterons cette époque au point de vue de l'histoire générale, nous serons plus justes envers elle comme philosophes que nous ne le sommes aujourd'hui comme romanciers. À 5 heures, Justin était chez Salvator. Salvator présenta Justin à Fragola. Je t'ai promis, dit-il, un accompagnateur et un maître de chant pour Carmélite. Voici déjà la moitié de ce que je t'ai promis, Justin. Rappelez-vous cette belle jeune fille que nous avons vue expirante à Meudon sur son lit de douleur. Elle souffre. C'est notre sœur. Je lui ai promis, par la bouche de Fragola, votre aide et celle de Monsieur Müller. Justin répondit par un sourire qui mettait sa vie à la disposition de Salvator. Et maintenant, dit celui-ci, partons. Et se retournant vers Fragola et l'embrassant comme un père embrasse son enfant, car tout jeune qu'il était, Salvator avait pris à la douleur quelque chose de grave et de paternel, l'embrassant, disons-nous, comme un père embrasse son enfant, bien plus que comme un amant embrasse sa maîtresse, il descendit l'escalier le premier en commandant à Brésil, tout désolé, de rester avec Fragola. Justin le suivit, silencieux. On traversa, sans échanger une parole, toute cette portion de Paris qui s'étend de la place Saint-André-des-Arcs à la barrière de Fontainebleau. Arrivé là, et voyant que Salvator s'engageait sur la route, Justin rompit le silence. Où allons-nous? Demanda-t-il. À Viry-sur-Orge, dit Salvator. Qu'est-ce que c'est que Viry-sur-Orge? Vous ne le devinez pas? Non. C'est le village où j'ai vu Mina hier. Justin s'arrêta court et tout frissonnant. Et vous allez me la faire voir? S'écria-t-il. Oui, répondit Salvator, souriant à l'aspect de cette pâleur qui envahissait les joues de Justin, signe de joie qu'il eût été difficile de distinguer d'un signe de terreur. Et quand me la ferez-vous voir? Ce soir même. Justin porta ses deux mains à ses yeux et chancela. Salvator le soutint en passant son bras autour de son corps. Oh, mon cher Salvator, dit Justin, vous allez me prendre pour une femme et vous n'aurez plus confiance en moi. Vous vous trompez, Justin, car si je vous vois faible dans la joie, je vous ai vu fort dans la douleur. Oh, murmura Justin, et ma mère, ma pauvre mère, qui ne sait pas combien je vais être heureux. Demain, vous lui direz tout, et elle n'aura rien perdu pour attendre. Dans son désir d'arriver promptement à Viry-sur-Orge, Justin proposa de prendre une voiture, mais Salvator lui fit observer qu'il ne pouvait voir Mina que de 11 heures à minuit et que par conséquent il était inutile d'arriver à Juvisy 3 ou 4 heures à l'avance. Sa présence réitérée à la cour de France pouvait d'ailleurs donner des soupçons. Justin se rendit à l'observation de Salvator. Il fut résolu que non seulement on irait à pied, mais encore que l'on s'arrangerait de manière à n'arriver au parc du château qu'à 11 heures du soir. Une fois en plaine, les deux voyageurs rompirent le silence qu'ils avaient gardé en traversant Paris. La conversation, contenue jusque-là, prit un tour plus libre, une allure plus vive. Il semble que les pensées intimes ont besoin, comme les plantes, du grand air pour s'exhaler. Salvator reprit l'initiation au point où il l'avait laissée dans la chambre du maître d'école. Il expliqua à Justin, dans leurs détails les plus cachés, les secrets du carbonarisme. Il lui révéla l'organisation de cette société, il lui en dit le but, il lui montra la franc-maçonnerie prenant sa source 1000 ans avant le Christ dans le temple de Salomon, d'abord ruisseau, puis torrent, puis rivière, puis fleuve, puis lac, puis océan. Justin, en entendant un homme de l'âge et de la condition de Salvator faire de la société une histoire aussi complète et aussi rapide en même temps, écoutait les paroles du jeune homme avec le même respect qu'il eût écouté celles d'un apôtre. Et en effet, Salvator, doué de la faculté si rare de généraliser, Salvator, en peu de temps et en peu de mots, avait, comme Cuvier fit pour le monde physique, retrouvé, décomposé et recomposé l'histoire morale de la société. La théorie de Salvator était bien simple. C'était une tendresse profonde pour l'humanité, sans distinction de caste ni de race, une abolition complète des frontières pour réunir le genre humain dans une seule et même famille. L'accomplissement des paroles du Christ, qui, ayant déjà donné la liberté et l'égalité, avait encore à donner la fraternité. Pour lui, et dans sa vaste appréciation sociale, tous les hommes étaient fils d'un même père et d'une même mère, tous frères par conséquent, tous libres. L'esclavage, donc, sous quelque forme qu'il se cachât, était le monstre qu'on voulait terrasser comme la cause primordiale du mal. Il y avait en lui un reste de la noblesse et de la loyauté des anciens preux qui s'en allaient combattre en Palestine. Il eût volontiers, comme eux, donné sa vie pour le triomphe de sa foi, et il parlait de l'avenir des nations avec cette même élévation et dans ce même langage qui semblait le privilège de l'abbé Dominique. Au reste, les deux jeunes gens, dont l'un avait eu, sans qu'il s'en doutât, sur la vie de l'autre une si grande influence, les deux jeunes gens, le prêtre et le commissionnaire, avaient entre eux plus d'une ressemblance. C'était le même amour de l'humanité, la même fraternité universelle, le même but enfin vers lequel ils tendaient tous deux, quoique marchant dans deux voies différentes et partis de deux points opposés. Ainsi l'abbé Dominique parlait de Dieu et descendait de Dieu à l'humanité. Salvator cherchait le secret de Dieu dans l'humanité et montait de l'homme à Dieu. L'humanité, pour l'abbé Dominique, était de création divine. Dieu, pour Salvator, était de création humaine. L'humanité, pour l'abbé Dominique, n'avait de raison d'être que créée, soutenue, dirigée par une puissance supérieure. L'humanité, pour Salvator, n'avait aucune raison d'être si elle n'était entièrement libre, si elle n'était elle-même sa force dirigeante. Il y avait, en un mot, entre leurs deux théories religieuses, la même différence qu'il y a en politique entre l'aristocratie et la démocratie, entre la monarchie et la république. Et cependant, nous le répétons, partant de ces deux principes opposés, tous deux tendaient vers le même but, l'indépendance de l'homme, la fraternité universelle. Pour Justin, pauvre martyr, en lutte depuis son enfance avec les besoins de la vie matérielle et qui n'avait jamais eu le temps de plonger son regard dans l'abîme des abstractions sociales, cette théorie de Salvator fut un long éblouissement allant presque jusqu'au vertige. Cette révélation fit jaillir autour de lui mille étincelles comme elles jaillissent d'un foyer dont on attaque la flamme près de s'éteindre. Son cœur, endormi dans les bras de la résignation, cette berceuse céleste qui depuis 18 siècles endort l'humanité, tressaillit et se réveilla tout à coup aux mots de fraternité et d'indépendance, et au bout de 2 heures de marche et de causerie, il avait grandi de 10 coudées. On marche vite, on fait beaucoup de chemin sans s'en apercevoir lorsqu'on marche poussé par le souffle d'une puissante préoccupation ou d'une grande idée. On arriva à la cour de France vers 9 heures du soir. Il restait 2 heures à attendre. Salvator se rappela une petite cabane de pêcheurs où il avait dîné il y avait 7 ans, le jour où il avait trouvé Brésil. On gagna le bord de la rivière, on reconnut la cabane, on entra et, moyennant une bouteille de vin et une matelote, on obtint l'hospitalité. Les yeux de Justin ne s'écartaient du coucou qui marquait l'heure que pour s'y reporter un instant après plus ardemment. Sans le bruit que faisait le balancier, bruit auquel il n'y avait pas à se méprendre, Justin eût juré que les aiguilles s'étaient arrêtées. Cependant, 10 heures puis 11 heures sonnèrent. Salvator vit l'impatience de son compagnon et en eut pitié. Partons, dit-il. Justin respira, bondit de sa chaise à son chapeau et se trouva du même coup sur le seuil de la porte. Salvator le rejoignit en souriant. Ce fut à Salvator à lui montrer le chemin. En effet, il marcha le premier dans la direction du château de Viry. On trouva le pont Godeau, l'allée des Tilleuls, la grille du parc. Est-ce là? Demanda tout bas Justin. Salvator fit un signe de tête affirmatif. Puis, en recommandation de silence, il appuya son doigt sur ses lèvres. Salvator et Justin longèrent le mur, légers et silencieux comme deux ombres. Puis, au même endroit où la veille il l'avait escaladé, Salvator s'arrêta. C'est ici, murmura-t-il. Justin mesura des yeux la hauteur de la muraille. Moins habitué que son compagnon aux exercices gymnastiques, il se demandait comment il franchirait l'obstacle. Salvator s'appuya contre le mur et présenta à Justin ses deux mains comme un premier échelon. Nous allons donc escalader cela, demanda Justin. Ne craignez rien, nous ne rencontrerons personne, dit Salvator. Oh, ce n'est pas pour moi que je crains, c'est pour vous. Salvator fit un mouvement d'épaule dont nous n'essayerons pas de donner la traduction. Montez, dit-il. Justin mit ses pieds dans ses mains, puis sur les épaules de Salvator, et puis il enjamba le faîte du mur. Et vous, demanda-t-il, sautez de l'autre côté et ne vous inquiétez pas de moi. Justin obéit comme un enfant. Au lieu de lui dire de sauter sur le sol, Salvator lui eût dit de sauter dans le feu, qu'il eût obéi de même. Il sauta, et Salvator entendit le retentissement de ses pieds sur la terre. Quant à lui, il s'élança avec sa légèreté ordinaire, se hissa à la force du poignet sur le chaperon du mur, et en une seconde se trouva dans le parc près de Justin. Il s'agissait de s'orienter afin de n'avoir pas besoin de faire les détours que Salvator avait faits la première fois en suivant Roland. Le jeune homme s'arrêta un instant, rappela ses souvenirs et coupa droit à travers le parc. Au bout de 5 minutes de marche, il s'arrêta encore, s'orienta de nouveau et appuya un peu à gauche. Nous y sommes, dit Salvator, voici l'arbre. Sans doute, se dit-il en lui-même, voici la tombe. Tous deux pénétrèrent dans le fourré et attendirent. Au bout de quelques secondes, Salvator appuya la main sur l'épaule de son ami. Ah, silence, dit-il, j'entends le frôlement d'une robe de soie. C'est elle alors, dit Justin, tout frissonnant. Oui, selon toute probabilité, seulement laissez-moi me montrer en premier. Vous comprenez l'effet que votre apparition inattendue pourrait produire sur la pauvre enfant. Elle l'approche. Elle est seule. Couchez-vous là et ne paraissez que quand je vous dirai de paraître. La voici. C'était Mina. Elle était seule, en effet. Oh mon Dieu, murmura Justin, et il fit mine de s'élancer. Vous voulez donc la tuer, dit Salvatore en le retenant. Il s'était fait dans le massif un mouvement qui avait attiré l'attention de Mina. Elle s'arrêta, regardant avec inquiétude et toute prête à fuir comme une gazelle effarouchée. C'est moi, mademoiselle, dit Salvatore, ne craignez rien. Et, écartant les branches, il apparut aux yeux de Mina. Ah, c'est vous, dit Mina, que je suis heureuse de vous voir, mon ami. Et moi aussi, d'autant plus que je vous apporte des nouvelles. De Justin? De Justin, de sa mère, de sa sœur, du bon monsieur Müller. Ingrate que je suis, j'oubliais tout ce qui n'est pas lui. Et voyons, qu'avez-vous fait depuis hier? Contez-moi cela. D'abord, j'ai retrouvé votre montre. Oh, tant mieux. J'ai été voir toute votre chère famille, porter à Justin l'assurance de votre amour et recevoir la sienne. Oh, que vous êtes bon, et a-t-il été bien heureux? Vous demandez cela, il a pensé devenir fou. Ah, merci, trois fois merci. Lui avez-vous dit où j'étais? Oui. Et alors? Alors, vous comprenez bien qu'il m'a demandé à venir. Oh, oui, je comprends cela. Mais vous comprenez aussi que ma première pensée a été de lui refuser cette satisfaction. Oh, non, non, cela, monsieur, je ne le comprends pas. Je vous dis ma première pensée, mademoiselle. Et la seconde? Demanda Mina en hésitant. La seconde a été l'opposé de la première. De façon, demanda Mina toute tremblante, de façon que sur la promesse d'être raisonnable, eh bien, je suis convenu avec Justin de l'amener. Et quand cela devez-vous l'amener? Je voulais l'amener un de ces soirs. Un de ces soirs, dit la jeune fille en poussant un soupir, et il a consenti à attendre. Non. Comment non? Il a voulu venir tout de suite. Vous comprenez encore cela? Oh, certes, je le comprends. J'aurais fait comme lui, moi. Ma première pensée a encore été de refuser, dit Salvatore en riant. Mais la seconde, Fimina, la seconde. La seconde a été de vous l'amener ce soir même. De sorte, demanda la jeune fille toute palpitante, de sorte que je l'ai amené. Monsieur, il m'a semblé entendre parler tout à l'heure, c'est à lui que vous parliez, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle, il voulait se jeter au-devant de vous et je l'en empêchais. Oh, si je l'avais revu ainsi, je serais morte de joie. Vous entendez, Justin? Dit Salvatore. Oh, oui, oui, s'écria le jeune homme en s'élançant hors du massif. Salvatore se rangea pour faire place à son ami. Les deux jeunes gens se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, étouffant entre leurs lèvres les deux noms de Justin et de Mina. Puis, presque aussitôt, deux mains s'étendirent du côté de Salvatore, et deux voix pleines de larmes joyeuses murmurèrent en même temps « Mon ami, Dieu vous le rende !» Salvatore les regarda un instant de son doux et puissant regard, qui, semblable à celui d'un dieu, semblait prendre la responsabilité de l'avenir. Puis, serrant la main de Justin et baisant Mina au front, « Et maintenant, dit-il, vous êtes sous le regard du Seigneur, que Dieu qui m'a conduit jusqu'ici me mène jusqu'au bout. »« Vous nous quittez, Salvatore ?» dit Justin. « Jamais, répondit Salvatore, vous savez que c'est par hasard que j'ai rencontré Mina, vous savez que ce n'était point elle que je cherchais quand je suis venu dans ce parc. Laissez-moi poursuivre mon œuvre et soyez heureux, le bonheur est un hymne à Dieu. Dans une heure, je serai près de vous. » Et le jeune homme, prenant congé d'eux, de la main et de la tête, disparut au tournant de l'allée qui conduisait au château. Ce que se dirent pendant une heure les deux amants demeurés seuls, je n'essayerai pas de vous le raconter. Supposez, cher lecteur, que vous avez l'oreille appuyée à la porte du ciel et que vous écoutez parler les anges.